Au cours de cet après-midi, dans un premier temps, on va continuer à voir ensemble quels outils, pour quel diagnostic, avec une présentation de l'ANAP, et puis ensuite un certain nombre d'expériences qui vous seront présentées. À l'issue de ces présentations, vous pourrez évidemment poser des questions, comme vous avez pu le faire ce matin. Vous étiez particulièrement participatif. C'est intéressant. Toujours. Ensuite, à partir de 15h30, le rapport Lafourcade enfin dévoilé, je cite le titre, un cadre de référence. Et justement, nous avons la chance d'avoir avec nous Michel Lafourcade, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui viendra nous en parler. À l'issue de cette présentation, une grande table ronde avec de très nombreux invités, au cours de laquelle chacun pourra s'exprimer sur ce rapport et où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Quel projet pour quel contrat ? Telle est l'ambition de cette table ronde. Et puis enfin, à 17h30, ce sera l'heure de la synthèse de la journée et pour ceux qui sont concernés, de 18 à 19h, l'Assemblée générale annuelle de l'ADESM. Voilà le programme de l'après-midi. Je vous remercie d'applaudir notre première intervenante. Il s'agit de Corinne Martinez, qui est manager à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, autrement dit l'ANAP, et qui va pouvoir nous parler du parcours en psychiatrie et santé mentale, du diagnostic partagé au contrat territorial de santé mentale. Propos qui seront suivis immédiatement par une mise en pratique, en quelque sorte, pilote en tout cas, grâce à l'ARS Bretagne.
Oui, parce que bon, la marque de fabrique de l'ANAP, c'est de travailler à partir du terrain. Alors, petite introduction, moi j'ai repris, je vais vous présenter un projet en fait qui a démarré en 2013, ce qui expliquera certainement certaines choses sur lesquelles vous reviendrez certainement. J'avais une expérience en psychiatrie puisque j'ai sévi pendant 7 ans donc, comme chargée de mission psychiatrie santé mentale à l'ARS Rhône-Alpes. Donc voilà. Alors, du diagnostic partagé au contrat territorial de santé mentale, il est bien évident que nous avons travaillé vraiment sur la notion de parcours, le diagnostic et le contrat, en étant pour le premier l'illustration et le contrat une forme d'aboutissement. Alors, pourquoi parcours ? Eh bien, tout simplement, là, c'est très visuel, je ne vais pas entrer dans le détail. Dans la mesure où on s'est positionné selon une approche patient, voilà. Tout ce monde-là est censé s'occuper de la personne qui vit avec des troubles psychiques. Ça fait beaucoup de monde. La question de parcours, je vous le disais, donc c'était déjà une réflexion entamée en 2013, qui a fait déjà l'objet d'une première publication, et notamment à propos de l'outil, donc c'était... les parcours, première approche, avec l'élaboration d'un outil qui vise à décrire le diagnostic, à décrire le parcours. Et cette notion de parcours a été, confirmée par les textes. Alors, je le rappelle, c'est passé quasiment inaperçu, mais il y avait une ébauche de notion de parcours dans le cadre de la loi sur l'hospitalisation sans consentement, dans la mesure où elle instaurait normalement un suivi et un accompagnement et un accès à l'accompagnement médico-social et social. Et puis la loi de modernisation, donc l'article 69, on en parlera et on en parle tout au long de cette journée. Alors, les principes sur lesquels l'ANAP s'est fondée pour aborder cette notion du parcours. Alors, c'est une démarche très classique d'accompagnement au changement et de gestion de projet. Et c'est donc un processus de transformation en quatre étapes, on va y revenir, avec surtout, ce qui est très important, une double dimension managériale et opérationnelle. Et quelque chose que l'on considère, et je pense qu'on peut partager ça avec vous, c'est que c'est le temps qui va être le facteur donc, positif de la réussite. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'emblée que peut-être la première épure ou la première production ne soit pas parfaite, mais que si l'on veut vraiment construire, il faut se donner le temps. Les choses étant très complexes, vous l'avez vu, ne serait-ce qu'au niveau donc, des acteurs qui sont présents. Donc c'est une démarche ascendante, Et on a souhaité absolument que la transparence et l'éthique soient le maître mot donc de tout l'accompagnement. Alors, et c'est là que peut-être le débat se mettra en place. Donc, à l'époque, en 2013, les personnes qui ont démarré la démarche donc, ont conçu la méthode en positionnant l'ARS et les conseils départementaux comme pilotes. Aujourd'hui, quelque part, on ne remet pas en question cette attribution du pilotage, parce que dans la mesure où ce qui est recherché, c'est vraiment un changement de paradigme, il nous semblait que les régulateurs devaient être absolument, alors, pilotes ou tout au moins très impliqués dans le suivi. Ce que disait Céline Vignier, donc tout à l'heure, qui était mon ancienne chef, donc c'est que il faut absolument être présent pour que il y ait là aussi entre régulateurs et professionnels de terrain, donc je dirais un échange sur à la fois les contraintes des uns et les contraintes des autres, mais c'est aussi, et je le dis de façon très affirmée, c'est permettre donc aux ARS de découvrir donc peut-être un autre mode de management qui est celui donc d'un accompagnement partenarial et pas toujours donc le rôle de tutelle, même si les deux doivent donc coexister. Alors la situation étant assez complexe sur le terrain, on a choisi donc un périmètre assez restreint, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait d'abord donc aborder la question sous l'angle des adultes vivant avec des troubles psychiques chroniques. On est déjà en train de réfléchir sur comment on peut adapter la méthode à d'autres populations. Sachant que pour les personnes âgées, il y a tout le processus PAERPA qui existe au niveau de la NAP, qu'il y a aussi donc des développements au sein de la NAP concernant la construction des filières donc qui rejoint plus les GHT, et qu'on est sur la même méthode donc sur les trois branches. Donc ça, c'est un petit peu pour les considérations de périmètre. Au niveau des principes, ce que l'on a décidé de privilégier et de promouvoir, c'est qu'on est parti, et c'est en ça que le paradigme s'inverse, c'est de placer les usagers et les aidants au cœur de la démarche, de viser les capacités des personnes plutôt que leurs troubles ou handicaps, viser le « aller vers » et en tirer les conséquences en termes d'organisation et d'équipement dans le territoire. En gros, ce que l'on a vraiment voulu faire, c'est aujourd'hui, tout est organisé selon un concept structurel. On part de structures, d'établissements, de services. Et le paradigme, si l'on veut que le parcours soit vraiment... correspondent et rendent, donc que les acteurs rendent le service dont les personnes ont besoin, il faut passer à une réponse systémique. Et c'est en ce sens qu'il faut que beaucoup de monde soit autour de la table. Il faut aussi, et ça c'est quelque chose qui est apparu de façon très 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 importante, très très vite, il faut faire en sorte que l'ensemble des acteurs apprennent à se connaître, apprennent à se reconnaître, au niveau donc de leur métier, ce qui veut dire que chacun doit dire ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et comment il le fait. Et puis quelque chose qui est un petit peu, pas nouveau, mais qu'on a voulu affirmer, c'est qu'on veut absolument que dans cette méthode et dans cette démarche, il y ait de l'objectivation à chaque étape, et on se proposera de faire donc une évaluation. Voilà, je suis restée assez longtemps sur ce... parce que c'est vraiment le fondamental. Alors, comment nous nous y sommes pris? Eh bien, c'est un accompagnement donc en deux vagues successives. Trois ARS qui ont essuyé les plâtres, dont l'ARS Bretagne, avec un territoire autour de Fougères-Vitré, une zone de proximité Lens-Hénin-le-Beaumont, et puis le bassin de santé intermédiaire de Montluçon. Au niveau de cette vague, c'était vraiment des territoires d'intervention d'établissement, donc des territoires assez restreints. Alors, je pense que Sylvie, tu pourras dire, mais ce qui nous a semblé à l'issue de cette première vague, c'est qu'on était en grande difficulté pour associer le conseil départemental donc à la négociation. C'est pourquoi la vague d'accompagnement qui est en cours autour de trois donc, départements, on a choisi l'aire départementale, c'est l'île de la Réunion, la Corrèze et la Sarthe. Donc, une démarche très, très classique. Hein. Donc, préparation donc, des éléments pour aboutir à un cadrage avec, donc effectivement, le choix du territoire d'action. Attention, on est dans une démarche opérationnelle. On a pris le temps de la mener jusqu'au bout. On n'a pas de recommandations à faire dans ce cadre-là, mais il nous paraît que deux niveaux sont particulièrement pertinents pour ce qui est donc pour l'objectif recherché. C'est le bassin de vie, c'est la proximité, c'est là où vit la personne, et puis le département par rapport aux compétences du préfet, soit sans consentement, et du conseil départemental. On passe ensuite à une phase de diagnostic où, et je vous en parlerai tout à l'heure, donc on a développé des outils avec les acteurs. On est bien d'accord, ce sont des outils et des indicateurs développés avec les acteurs. Le diagnostic a pour but de mettre en évidence ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça doit aboutir à l'élaboration d'une feuille de route donc pour mettre en place des mesures correctrices. Et puis, une phase de mise en œuvre qui permet là encore de revenir sur les actions. Et donc un essaimage régional qui doit être prévu dans le cadre d'un déploiement. Nous avons mis, et ça c'est très important, une gouvernance du projet. Et ça, quel que soit le pilote donc, de la démarche, c'est absolument indispensable. Vous avez vu la complexité, le nombre des acteurs, et bien il faut que tous ces gens-là soient autour de la table et se retrouvent quelque part donc, dans la conduite de l'action qu'ils mettent donc au service du parcours. On l'a orienté donc autour, comme je vous le disais, donc des ARS et des conseils départementaux. Sauf que on s'est permis donc de demander à un établissement qui a bien voulu accepter. Donc il s'agit du CHS de Thuir et Carole Glaise donc est dans la salle. Donc de tester aussi la démarche et de nous faire retour de ce qui fonctionne, ce qui est difficile quand on est établissement non pilote du projet, avec donc toute une déclinaison de groupes de travail. Alors, les outils, trois en particulier que je vais vous décrire. Donc, c'est la carte d'identité du territoire, c'est un petit peu ce que Magali a indiqué. Des choses qui sont quand même, qui peuvent être, entre guillemets, produites de façon un petit peu industrielle au niveau des ARS, puisqu'il y a beaucoup de données qui sont là pour le coup existantes en routine. Et cette carte d'identité du territoire donc, s'appuie sur trois grands thèmes. Le contexte territorial, démographique, géographique, socio-économique. La question de l'existence, c'est-à-dire la description de l'offre, de l'équipement, que ce soit donc au niveau du sanitaire et du médico-social. Et nous avons absolument voulu ajouter un zoom particulier sur tout ce qui, de près ou de loin, correspond à des coordinations. Et elles sont nombreuses. Et elles ont, je dirais, des niveaux complètement différents en fonction de ce qui est visé, c'est-à-dire plus on se rapproche du patient ou plus on se rapproche des institutions. Et puis, une analyse donc des caractéristiques de la prise en charge des personnes. Ce sont toutes les données donc d'activité et de consommation de soins. À partir donc, c'est donc une grande grille d'indicateurs. Ceux-là, ils sont disponibles et il y a très peu de calculs ou d'enquêtes à réaliser. Ils sont quasiment disponibles dans les sources d'informations, notamment au travers des RME de la TIH. Alors, le diagnostic territorial, là, c'est le modèle de la ROSAS. C'est un outil qui veut décrire le parcours. Il y avait donc la description du territoire, la description du parcours. Et donc, c'est bien évidemment, on est toujours dans ce que l'on souhaite. On part du parcours de vie de la personne et on est allé regarder quels étaient les points critiques dans ce parcours où l'on pouvait constater le plus grand nombre de dysfonctionnements, voire de ruptures. Eh bien, il s'agit donc de l'accès au diagnostic et aux soins psychiatriques, aux situations inadéquates. Alors, les situations inadéquates, c'est pas, vous avez bien vu que ce n'était pas hospitalisation, mais il y a au moins autant de situations inadéquates dans les hôpitaux de jour que dans les établissements médico-sociaux. La question de l'accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux, avec là une petite difficulté qu'on a réglée de façon, provisoire, c'est qu'il était très difficile d'avoir en quantité, et y compris dans la description du handicap, le nombre de personnes qui avaient été qui bénéficiaient d'une notification MDPH en tant que personne handicapée psychique. Donc la CNSA travaille à un système d'information intégré qui devrait émerger fin 2017. Nous avons construit une petite moulinette très, très artisanale qui nous a permis quand même, pour les MDPH qui ont bien voulu se prêter au jeu, d'avoir un peu plus d'informations et de précisions dans ce domaine. L'accès aux soins somatiques, quelque chose de très important, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis la prévention et la gestion des situations de crise. Pour chacune de ces portes d'entrée dans le parcours, il y a entre 3 et 5 indicateurs qui, cela, nécessitent vraiment ou des enquêtes et qui sont plutôt à la main des DIM, au sein des établissements. Et puis, autodiag en psychiatrie. Là, pour le coup, c'est un outil à la disposition des établissements sanitaires, sachant qu'une version médico-sociale est en train d'être concoctée. En gros, c'est pour permettre aux établissements de santé et aux établissements de psychiatrie de se poser la question de je me positionne comment, moi, dans le parcours. Et ça peut être utilisé, pour le coup, c'est bien à disposition des établissements, ça peut être utilisé à l'occasion de la démarche du parcours, mais aussi à l'occasion de l'élaboration d'un projet de service, de pôle ou de projet d'établissement. C'est donc une série de 72 questions qui reposent sur les indicateurs des 5 portes d'entrée. Tout ça pour objectiver les situations. Il y a donc un item aussi par rapport au positionnement des usagers au sein de l'établissement. Et pour chacun de ces items, les réponses sont apportées ça peut se faire au niveau d'un service, d'un pôle, au niveau de l'établissement. Ils sont analysés sous l'angle de la communication, des pratiques professionnelles et du pilotage. Le résultat est très visuel, c'est un radar, qui permet de voir très très rapidement où sont les points faibles et comment l'établissement peut se mettre en situation d'apporter des améliorations. Alors, c'est vrai que l'évaluation, l'objectivation n'est pas dans l'ADN de la psychiatrie, mais c'était juste pour vous apporter un zoom sur un moment qui a été assez compliqué et difficile pour nous de mettre de faire de façon assez, assez facile. C'est comment on passe du diagnostic aux feuilles de route et au plan, au plan d'action. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'issue du diagnostic, on était, selon les régions, entre 40 et 200 pistes de travail. Ce que l'on sait, c'est que même si la cible, il faut avoir beaucoup d'ambition et beaucoup de ténacité, il faut qu'on accepte d'être modeste sur les résultats et que ça va prendre du temps. J'y reviens, je le redis. Donc, à partir du moment où on a établi le diagnostic, où on a élaboré un plan d'action, l'inscrit dans une feuille de route, qu'on l'a mise en œuvre, c'est tout à fait les conditions qui sont réunies pour signer une lettre d'engagement entre l'ensemble des acteurs, à l'époque, on n'avait pas osé l'appeler contrat territorial de santé mentale, mais compte tenu des discussions que nous avons avec la DGOS, ça pourrait servir de trame, de trame formelle pour l'écriture d'un contrat territorial de santé mentale. Alors, et après, parce que effectivement, là, nous en sommes restés à la méthode. Le guide sur la méthode va paraître dans 10-15 jours. Ce guide est accompagné de beaucoup de fiches, des outils, bien sûr. L'accès aux grilles. La nappe, c'est open source, il n'y a pas de problème. Et puis des fiches de méthode où on s'est par exemple penché sur associer les usagers. Oui, mais peut-être qu'il faut avoir une vision particulière et une attention particulière. ce type, comment on conduit, comment on est sûr qu'on a mis tout le monde autour de la table. Voilà, donc comment peut-être on peut conduire une discussion dans un cadre partenarial et non dans un cadre donc tutélaire. Nous avons des documents types, des supports types et donc bien sûr cette lettre d'engagement. Alors, la suite, ben, c'est une nouvelle publication donc, qui est en cours pour fin 2017. On va rentrer dans le contenu donc, des actions et des plans d'action. Selon trois angles, les appuis à la coordination, la gradation des soins et des accompagnements, et on fera très certainement un zoom sur le positionnement des GHT et des communautés psychiatriques de territoire, sachant que nous faisons à la NAP donc, une distinction très nette entre le diagnostic territorial du parcours et le diagnostic territorial et projet médical du GHT. Ça n'est pas le même. Nous allons travailler sur des vignettes thématiques, donc c'est quasiment fait sur les hospitalisations inadéquates et au long cours, sur l'ambulatoire au sens large, donc l'ambulatoire des villes, l'ambulatoire des institutions, et sur la pédopsychiatrie, c'est-à-dire donc une adaptation des outils dont je viens de vous parler, et puis une évaluation de la démarche, autant pour les territoires que pour nous. Le déploiement, donc nous sommes aussi en train déjà de réfléchir à comment on pourrait déployer sur les autres régions ou territoires, et puis donc la création d'un centre ressources qui permettra de mettre à disposition de tout le monde eh bien, ce qui se passe en région, voilà, de façon assez recréer, je dirais, un niveau de discussion en passant par la NAP. Et ce sera pas... voilà. Donc voilà ce que je vous dis de façon assez rapide. Il y aurait beaucoup d'autres choses.
Le cas échéant, vous répondrez aux questions tout à l'heure, effectivement, pour compléter cette présentation. Mais pour l'illustrer, encore mieux, vous me retrouvez ici.
Justement, pour l'illustrer, Sylvie Dugas, qui a vécu l'expérimentation en Bretagne, va nous en parler.
Voilà.